Cube Radio.
Des opinions bien à elle.
Sophie Durocher.
Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce vendredi 13. Croyez-vous à ça? Êtes-vous superstitieux? Est-ce que pour vous, le fait que ce soit un vendredi 13, ça change quelque chose? Moi, je suis athée. Fait que si je suis athée, ça veut dire que je crois pas à aucune superstition. Donc, je peux pas à la fois être athée et avoir des trucs comme genre, il faut pas passer en dessous d'une échelle ou les chats noirs. Donc, vendredi 13 ou pas, ça change strictement rien personnellement dans ma vie. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. Puis, je vais commencer l'émission en vous parlant du magazine La Semaine, qui est ma Bible. Non, la semaine dernière, à la une du magazine La Semaine, Nathalie Simard, que j'ai reçue plusieurs fois à cette émission, qui est une femme que je trouve extrêmement courageuse, elle fait la une, donc, du magazine La Semaine en disant « Je suis maintenant bien à l'extérieur comme à l'intérieur ». Elle a vraiment subi une métamorphose, Nathalie Simard. Elle a perdu rien de moins que 55 livres. Et dans cette entrevue dans le magazine, elle dit à première vue, vouloir maigrir, ça peut paraître superficiel, mais c'est important pour moi. Mon excès de poids, s'explique en partie par les abus dont j'ai été victime dans le passé. On sait qu'elle a été abusée sexuellement par son impresario Guy Cloutier quand elle avait 10-11 ans. Elle dit inconsciemment, j'accumulais les livres en trop pour ne pas être désirable. Écoutez-moi jusqu'au bout, vous allez voir où je m'en vais avec mes gros sabots. Un peu plus loin, elle dit, je répète depuis des années que j'accepte mes rondeurs, que l'important, c'est d'être bien dans sa peau. Mais on va se dire les vraies affaires, avoir un surplus de poids, c'est plate. T'as moins d'énergie, tu te déplaces moins facilement, sans compter que l'obésité occasionne des problèmes de santé. Moi, je la trouve très courageuse de dire ça. Elle dit, s'accepter, je veux bien, mais il y a des problèmes de santé qui viennent avec le surpoids. Pouvez-vous croire, mesdames et messieurs, que Nathalie Simard se fait traiter de grossophobe? Grossophobe, là, c'est la haine des personnes en surpoids. Et Nathalie Simard, qui très candidement, à la une d'un magazine, raconte son combat contre le surpoids. Elle a subi une chirurgie bariatrique. Elle a perdu du poids. Elle a engagé un entraîneur. Elle a fait du sport. Elle a surveillé son alimentation. Puis la façon dont on accueille son témoignage, c'est en la traitant de grossophobe. Alors, il y a un nouveau site sur Internet qui s'intitule grossophobie.ca. Et sur ce site-là, il y a tout un article qui dit « La grossophobie de Nathalie Simard ». Mais par quel esprit tordu on en finit par accuser cette jeune femme-là qui a vécu les pires horreurs et qui a repris sa vie en main, qu'on l'accuse de contribuer à la grossophobie. Savez-vous pourquoi on l'accuse de grossophobie? Parce qu'elle associe une perte de poids à la santé. Et c'est effrayant, faut pas dire ça en 2019. Voyons donc, quelqu'un qui a pris sa santé en main, puis qui a dit « moi, je veux perdre du poids, puis je vais être en meilleure santé », c'est ça être grossophobe. Ça n'a aucun sens. Alors, la personne qui est à la tête du site grossophobie.ca, a dit que le discours de Nathalie Simard est un discours problématique, qu'elle faisait de la grossophobie internalisée, que c'était triste et qu'il ne fallait surtout pas associer le surpoids avec une mauvaise santé. Manifestement, cette personne-là n'a pas parlé à un médecin récemment. Moi, je trouve très courageuse Nathalie Simard, très courageuse dans son combat au cours des dernières années, et là, d'accepter de parler publiquement de ce qu'elle a fait pour retrouver la santé, je la trouve très courageuse, et que des gens, quelque part, la traitent de grossophobe, je trouve que ça n'a absolument aucun sens. Fait que quand j'ai vu ça, qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Ben, voyons donc.
On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio.
Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. La consécration, bien sûr, il a été reçu par Denis Lévesque il y a quelques jours. Il s'appelle Wally. C'est un pseudonyme, évidemment. C'est un ancien soldat, tireur d'élite des Forces armées canadiennes, mais il a été aussi soldat volontaire. Il est allé volontairement combattre l'État islamique. Et ces jours-ci, il publie un livre qui s'intitule « Mission tireur d'élite ». Wally est en studio. Bonjour, Wally.
Plaisir, bonjour.
Wally, j'ai parcouru votre livre « Mission tireur d'élite » et j'ai accroché dès le départ parce que vous vous adressez aux gens qui sont des pacifistes. Hein? Les gens qui disent « Ah, faire la guerre, c'est très vilain, les soldats, c'est tous des grosses brutes et tout ça. » Et vous souhaitez répondre à ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez leur dire?
Dans le fond, être pacifiste, c'est une bonne chose.
Hein? Ouais.
Faut le dire. Comme dans toute idéologie, les extrêmes sont mauvais. Le pacifisme extrême, c'est dire peu importe la situation, même quand tu as des talibans qui, exemple, lancent l'acide au visage de femmes innocentes, même dans ces situations-là, c'est pas correct d'utiliser, mettons, la force militaire, par exemple. T'sais, là, je leur dis, dans le fond, ben si vous êtes tellement avec des solutions miracles pour avoir la paix dans le monde, montrez-nous comment. Allez-y.
Allez-y au front.
Allez à Kandahar. On va faire un beau documentaire, ça vous tente. Même, je vais vous laisser aller dans la campagne. Vous essayerez de lancer des arcs-en-ciel aux talibans, voir si ça fonctionne.
Oui, lancer des arcs-en-ciel aux talibans.
Parce que pour de vrai, moi, je trouve que si tu lâches des bombes, c'est plus efficace que des arcs-en-ciel, normalement, que ce genre de monde-là, en général. En tout cas,
oui.
C'est mon avis.
Mais, puis un vieux principe, même si la citation est en latin, elle est actuelle encore en 2019. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre.
Ouais.
Donc, Vous voyez un peu comme un pacifiste, c'est-à-dire qu'en fait, vous, ce que vous souhaitez, c'est... parce qu'à un moment donné, dans le livre, vous comparez le combat qu'on a fait contre les talibans ou contre l'État islamique, vous comparez ça à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a combattu les nazis.
Oui,
est-ce
c'est
que
ça,
vraiment
c'est...
on peut faire ce parallèle-là,
ben,
d'après vous?
C'est un groupe armé, fanatique. Le monde ne réalise pas. T'sais, souvent, on oublie. Il y avait un éléphant dans la pièce quand je faisais, par exemple, l'entrevue de Denis Lévesque où il y a eu un paquet de beaux commentaires, mais un paquet de commentaires ultra critique, qui disait que j'étais un fou puis un tueur, puis etc. T'sais. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est je tuais pas juste du monde random de même, là, gentil. Là, c'était pas le Centre-Ville de Montréal pantoute. Là, okay? C'était des fanatiques islamiques, des groupes reconnus comme des organisations terroristes. T'sais, toi, Sophie Durocher, tu ferais de la radio à Kaboul, qui est une ville relativement sécuritaire. Faudrait que tu le fasses dans un périmètre de sécurité. Il y aurait des barricades autour, des gars armés, parce que les talibans voudraient te mettre la main dessus parce que t'es une femme. Ton mari pourrait te jeter de l'acide au visage sans aucune conséquence. Ça serait même toi qui serais en faute. Il faut pas oublier que les personnes à qui on s'en prenait, ils attaquaient des écoles. Des écoles, puis tuer des enfants là-dedans. T'sais. Qui n'avaient rien fait, ces enfants-là.
Donc, vous considérez que parce que la cause est noble, votre présence là-bas était justifiée. Parce que vous le dites, à un moment donné dans le livre, vous dites l'Afghanistan, à cette époque-là, c'était le pays le plus dangereux sur le globe.
C'était vraiment dangereux,
En Afghanistan, Kandahar, c'était l'endroit le plus dangereux.
Il y avait le Maine aussi, qui était une autre province britannique, mais dans le sud, là, ça brassait vraiment beaucoup. Puis en fait, c'était statistiquement, ça brassait plus que l'Irak, en fait. L'Irak, c'était plus gros, donc en absolu, tu avais plus de pertes. C'est sûr qu'il y avait des secteurs, évidemment, qui étaient plus dangereux que d'autres. Là, c'est relatif à chaque secteur. Là, mais en général, l'Irak était moins dangereuse en général que, mettons, les secteurs au sud de l'Afghanistan qui étaient vraiment... Ça brassait quand même pas mal. Là.
D'accord. C'est quoi le but de ce livre-là?
Le but, c'est vraiment qu'on soit fiers de nos soldats québécois.
Ouais.
C'est vraiment ça.
Vous le dites à un moment donné, les côtés, les tremblés, les...
Oui, exactement. Ouais, je veux qu'on soit fiers de qu'est-ce que nos gars ont fait. Puis souvent, tu sais, je mentionne les noms, mais je mentionne pas au complet les noms.
Ouais.
Quand les gars font des bons coups, je mentionne leur nom de famille. Puis là, je leur dis, un tel a fait ça, un tel garde...
Soldat Péloquin, à un moment donné, vous mentionnez,
c'est ça, lui, vous mettez sa photo. Oui, c'est ça. Je veux rendre honneur à mes frères d'armes, à ceux qui ont combattu.
Mais est-ce que ça veut dire que si on lit entre les lignes, que si vous voulez leur rendre hommage, c'est que vous trouvez que dans la société québécoise, en général, on n'est pas assez fiers d'eux.
Une bonne question. Je ne m'attendais pas à ça, mais un peu, oui. C'est un peu, mais en même temps, moi, je dis tout le temps, les Québécois, on a le défaut de nos qualités. Hein. On est pacifiste, puis en même temps, on est naïf un petit peu. Puis, tu sais, souvent, la géographie façonne les mentalités d'un peuple.
Ouais.
Étant éloigné des dangers modernes, je peux dire, des guerres modernes.
Oui, parce qu'on n'a jamais connu de guerre sur notre territoire, contrairement aux Européens.
En fait, j'ai ma grand-mère qui disait à un moment donné, dans la famille, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas aller à la guerre, puis il s'était caché.
Ouais.
Puis là, je disais, oh, ma grand-maman, c'est Hitler, il fallait aller combattre les nazis, sinon personne ne va le faire. J'y disais, il était dangereux. Elle me dit, oh non, c'est justement, il est dangereux, il ne faut pas y aller.
Oui, c'est ça.
Mais ça, là, c'est tellement ça.
Mais
en même temps,
mais vous pouvez comprendre aussi ce membre de votre famille qui a donc refusé la conscription puis qui a refusé d'aller se battre en Europe parce que ça fait peur.
Oui, en effet.
La trouille au ventre d'aller combattre, même si on sait que la cause est noble, même si on sait qu'on s'en va combattre les nazis. La trouille est là. L'aviez-vous, des fois, cette trouille-là?
T'as tellement de sortes de peurs. En fait, on parlait le vendredi 13, hein, les signes puis tout. Puis t'es très, j'en parle à un moment donné dans une partie de livre. On a vraiment, à un moment donné, on avait comme un plan. Okay? Puis on s'est dit, on va aller là, mettons, comme sniper, en territoire ennemi, s'infiltrer, puis on va rester là, on va observer, on va être caché. Mm. Puis on dit, hey, Colin, c'est risqué. Puis les gars sont très superstitieux quand le danger est là. Tu sais, là, c'est facile, on en jase, puis ça va bien. Mais quand
c'est abstrait,
si je te disais, le demain, on y va, OK? Puis mettons, ça serait un vendredi 13 demain, ou juste tantôt. Je te jure, même si t'es pas superstitieux, tu ferais comme. Tu sais pas, tu deviendrais. Peut-être superstitieux, justement. Puis les gars, on dit tout le temps, on écoute les signes. Puis on a eu une tempête de sable cette occasion-là qui nous a empêchés de faire la mission. On a changé la mission, OK? Puis la place où on était supposé d'aller, c'était un complètement infesté de talibans qui passaient devant nous autres. Mm. On aurait pu être encerclés carrément. C'était pas une place où on aurait pu se défendre facilement, en plus.
Donc, vous auriez pu mourir, peut-être.
Ouais, puis là, on disait, on a écouté les signes, on a changé le plan à dernière minute, puis peut-être que je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler si on n'avait pas eu la tempête de sable, par exemple.
T'sais. Oui, des fois, il y a des hasards. Mais je veux revenir sur la notion de fierté. Quand ça arrive, des fois, mettons, je suis à l'aéroport, puis il y a des soldats, puis je sais qu'ils partent en mission, ou quand, dans différentes circonstances, des fois, je rencontre des soldats, je vais toujours les voir.
Ah, ben, c'est fin.
Je vais toujours les voir, puis je leur dis merci.
Puis
ils le
remarquent en passant,
ils sont
très contents.
Ils sont toujours émus, parfois aux larmes.
Oui, puis ils n'ont pas besoin de plus.
Mais je fais ça avec les policiers aussi, des fois. Je fais ça avec des policiers, des fois, je leur dis merci de me garder en sécurité.
Les policiers, on a beaucoup de ressemblance, en effet.
Oui, mais est-ce qu'on devrait faire ça plus souvent?
Ça coûte rien. Fait que, tu sais, ça fait plaisir. Puis, tu sais, les militaires, on a un paquet de monde. Il y en a qui... C'est le reflet de la société. Il y en a des bons, des pas bons, des moyens, de toutes sortes. Mais en général, on peut-tu dire que les militaires, il y a du bon monde là-dedans qui font des missions, moi, je trouve, nobles, en général, sans être parfaites? T'sais, on peut dire ça. Fait que, oui, j'encourage les gens juste à les serrer une poignée de main. Puis c'est pas vrai que les vétérans, ils veulent des affaires à puffiner, là. En tout cas, moi, ceux que je connais, là, on veut pas là, un stationnement gratuit. Puis la plaque de vétéran, ça fait plaisir, mais moi, je l'ai même pas. En fait, je pense que je vais l'avoir juste pour pas avoir d'étiquette. Parce qu'apparemment, ça enlève l'étiquette. Mais je m'en fous, la plaque, là. Je suis content pour ceux qui la veulent, là. Mais, tu sais, des affaires de main, moi, j'aime juste un peu, juste une petite reconnaissance. C'est tout. Puis je veux rien de plus. Puis, c'est ça. Puis, je suis pas une exception là-dedans. Il y en a plein qui pensent comme moi.
Qui pensent comme vous. Vous parlez à un moment donné de l'auto-culpabilisation. C'est-à-dire que vous dites, en Occident, on a tendance à s'auto-flageller puis à se trouver donc ben effrayant puis tout ça. Vous dites, il y a le temps là, qu'on se dise, ben non, c'est bien de se tenir debout. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous dire... c'est un nationaliste, c'est un gars de droite, puis là, surtout qu'à un moment donné, vous parlez sur votre site, je suis allée voir sur votre site La Torche et l'Épée, vous parlez de l'immigration, puis il faudrait peut-être restreindre l'immigration.
Absolument.
Ou encadrer l'immigration.
Je suis pas contre l'immigration, j'adore ce sujet-là, je suis pas contre l'immigration, je suis contre l'immigration forcée. C'est sûr qu'il y a une immigration extrême. C'est encore là, les extrémistes, c'est des bonnes choses qui sont... Mm-hmm. Extrême, dans le fond. L'immigration extrémiste, c'est pas bon. Mais pas d'immigration, c'est un autre extrême.
Mais qu'est-ce
stupide,
que vous appelez,
selon moi.
Soyez plus clair, qu'est-ce que vous appelez l'immigration extrémiste?
OK, bien, l'immigration radicale, je peux dire ça comme ça, ça serait ben, une immigration qui est en nombre suffisant que d'ici quelques décennies, tu vas changer la démographie, par exemple.
Le fameux grand remplacement. Donc ça,
c'est
un fait d'extrême droite, ça.
Ben, c'est un fait statistique. Statistique Canada, il y a des statistiques, je m'excuse, mais tu sais, qu'on soit pour ou contre, c'est ça. C'est pas... Là, la question, si on est pour ou contre, c'est une autre affaire.
Donc, vous êtes pro-Maxime Bernier parce que lui, il est contre ce qu'il appelle l'immigration
de masse.
En fait, moi, je suis
pas pro-parti. Je suis un pro-changement du système politique. J'aimerais ça voter pour un autre système politique et non... Pourtant, je trouve des similitudes dans des... Pas des similitudes, mais des
ressemblances.
Ouais, ben, tu sais, je trouve... mettons, un parti va dire une bonne chose, un autre parti va dire... J'aimerais ça pouvoir avoir plus de pouvoir entre les élections. T'sais, pour moi, la démocratie, c'est qu'est-ce qui se passe entre les élections et non aux élections. Je veux pas donner un chèque en blanc à personne. T'sais. Des fois, même Maxime Bernier a des super bonnes idées. Quant à moi, il se fait trop rentrer dedans pour rien, puis c'est pas honnête comme la critique qu'on y fait. Okay, ouais. Des fois. T'sais, par exemple, si je reviens au sujet de l'immigration, par exemple, c'est l'immigration radicale que j'appelle, c'est une immigration qui peut changer la démographie d'ici quelques dizaines d'années. OK, qu'on soit pour ou contre, là, OK? Aussi, elle doit avoir un autre ingrédient, parce qu'une population peut vouloir ça. OK? Peut dire on veut beaucoup de monde, puis on est conscient que.
OK, mais vous êtes conscient qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui disent « OK, ce gars-là, il est allé combattre à l'étranger, c'est un tireur d'élite, dans son livre, il vante les vertus de l'armée, des armes et tout ça, et en même temps, il nous dit « l'immigration radicale ».
Il y a beaucoup de monde qui sont surpris.
Il y a plein de gens qui vont faire le lien entre les deux en disant « Hey, c'est un méchant ».
Oui, mais là, en faisant des liens tout le temps de même, à la va-vite, tu fais une espèce de chasse aux sorcières.
Donc, je fais l'avocat du diable.
Oui, c'est ça, puis les vrais... radicaux, dangereux. Eux autres, tu vois, on va tellement banaliser, je peux dire ça, l'étiquetage extrémiste, que finalement, tu vas être rendu, que tu prendras plus au sérieux quand ça va être un vrai extrémiste. Tu comprends ce que je veux dire?
On va crier au loup, ouais.
Puis d'ailleurs, quand que je vais au Kurdistan ou en Afghanistan, etc., dans mon livre, je mets en valeur les peuples de là-bas. J'étais avec les interprètes, avec les Kurdes. J'adore les peuples kurdes. Puis d'ailleurs, les Kurdes sont souvent... Ils adorent les Québécois souvent parce qu'ils se reconnaissent un petit peu là-dedans. Hein? C'est parce que
Mais vous aimez les Kurdes quand ils restent au Kurdistan?
Non, parce pas du tout.
S'ils venaient ici au Canada, vous auriez un problème.
On pourrait faire des entrevues des heures de temps. OK?
Ouais.
Ben non. Moi, je veux qu'il y ait une immigration. Je veux juste pas que... Par exemple, dans une région, mettons qu'il y a une grosse partie de la population qui compte, on va dire, un nombre X. Mettons, on va dire 50 000 par année. Je donne un chiffre. OK? L'immigration radicale, c'est une immigration, par exemple, qui va le faire malgré qu'il n'y a pas un consensus. Il faut un consensus parce que c'est quelque chose d'important qu'on fait. Tu amènes du monde qui pense différemment, pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes. Puis là, tu le fais sans qu'il y ait un consensus. Moi, je trouve ça radical comme idée. S'il y a un consensus, aucun problème. Tu peux amener autant de monde qu'ils veulent, mais il faut qu'il y ait un consensus.
Mais ça, c'est un autre ingrédient. Vous êtes un pur produit de l'immigration, parce que si je me trompe pas.
Non, c'est ça l'affaire.
Mais moi, métissé, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ça. Puis j'accorde aucune importance.
C'est votre mère qui est d'origine latine.
C'est ça, ma mère. Non, c'est l'inverse. C'est ma mère québécoise, puis mon père, c'est américain. Puis dans le fond, je suis un produit des Amériques.
Bon, ben donc, heureusement que votre père, il n'était pas rentré dans une vague d'immigration de masse, parce que sinon, vous auriez été contre l'immigration
peut-être,
de votre propre père.
En même temps, je ne voudrais pas m'en venir dans un pays. Par exemple, je voudrais immigrer, on va dire, je donne un exemple, Islande.
Oui.
Je voudrais pas immigrer en Islande, puis après ça, leur dire, moi, je veux ci, je veux ça, puis je veux que s'ils sont d'accord à ce que je vienne. Puis souvent, d'ailleurs, dans les pays scandinaves, contrairement à la pensée populaire, ils ne sont pas... Tant, ils ne donnent pas la citoyenneté tout de suite. Hein, ça prend un temps énorme. En tout cas, tu vois que je pourrais en parler super longtemps.
Mais non, tout à fait. Mais revenons donc à votre livre. À un moment donné, il y a une des personnes que vous citez, parce que vous nous décrivez vraiment comment ça se passe sur le terrain. Il y a quelqu'un qui dit, puis moi, je suis nul en sport, fait que le hockey, je ne connais pas trop ça, mais il y a quelqu'un qui dit, l'Afghanistan, c'est comme une game de hockey en power play.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça ne vient pas de moi. Ça, c'est les stands un peu que tu es allé avant, nous autres. C'est parce que, contrairement à la pensée populaire, des fois, on pense en Afghanistan, on est allé, puis il nous rentrait dedans, puis on avait des pertes, puis c'était on perdait, mais non, on dominait le champ de bataille. Du moment qu'on voulait gagner, on gagnait. Puis c'était comme une game de hockey en power play, dans le sens que, hey, des fois, là, je te dis, là, on envoie une coordonnée, mettons, tu vois un taliban s'enfuir là, en courant, là. Puis là, on l'avait vu à la dernière seconde, il faut qu'il rentre dans un building, on envoie la coordonnée, l'hélicoptère passe en haut de nous autres, puis il y a des bombes là-dedans, ça éclate en morceaux. C'était pas plus dur que ça, c'était vraiment pas dur, là.
Mais la façon dont vous en parlez, c'est comme mon fils qui joue à la PS4, là.
Ouais, ben, on parle de même entre soldats. Autant que ça peut paraître. C'est cru. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est l'histoire non censurée de Katia Delitte en Afghanistan, parce que je veux vraiment qu'on voit comment qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ressent. Je veux pas commencer à mettre de filtre. T'sais. Tout le monde dit, on veut plus de langue de bois, on veut plus ci, mais là, c'est le temps. Là je vous dis comment qu'on pense. On n'est pas des monstres, on n'est pas parfait non plus. Je suis pas parfait.
Mais est-ce que vous voyez ça comme justement un jeu vidéo pour vous protéger?
Parce j'aime ça. Encore là, on pourrait en parler.
Est-ce que trois fois que vous dites, vous aimez mes questions, est-ce que vous aimez?
Je revenais. Mais c'est parce que j'ai fait plusieurs entrevues.
Ouais.
Puis c'est sûr que ben là, tu vois souvent un sujet évident au début, les aspects techniques, puis le post-traumatisme, etc.
C'est pour ça que vous allez avoir.
Puis là, je trouve ça intéressant que là, on embarque dans d'autres sphères. Mais c'est quoi la question? Je viens de la perdre.
Ben, est-ce que justement, le fait de voir ça comme un jeu vidéo, c'est une façon de se protéger?
Okay.
Parce que si tu vois dans ta tête que le gars qui vient de rentrer dans la maison, puis l'hélicoptère laisse tomber des bombes dessus, c'est un être humain, il y a des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants. Ben là, c'est traumatisant.
Ben en fait,
alors que tu te dis, ben c'est un petit personnage dans un jeu vidéo, à la rigueur, tu t'en fous.
Ben en fait, il y a une fois que j'ai trouvé une des plus éprouvantes psychologiquement à voir, c'est qu'on a tiré de nuit. De nuit, on avait l'équipement de vision.
Infrarouge?
Ouais, c'est ça, c'est infrarouge dans ce cas-là. Donc on voyait la chaleur du corps, tu sais. Puis là, la balle, on voit, c'est comme tu vois le projectile, c'est comme une balle de golf, tu tires au golf, tu vois une balle de golf. Mais quand tu regardes ça à travers une optique, tu vois vraiment la balle remonter le vent, là, parce qu'on fait des corrections, puis elle retombe, pouc, puis elle a touché le gars. Le gars, il tombait assis, touc. C'était des pixels que je voyais. Mais Colin, que ça avait de l'air à faire mal, OK? C'était une balle faite pour chasser l'éléphant, là, qu'on tirait. OK? Ça fait pas du bien. Ça te tente pas. Oui, il est assis, puis après ça, il s'est enfui. On pense qu'il est mort parce que où est-ce qu'on l'a touché?
Attends, il s'est assis,
il est mort.
Puis après, il s'est enfui.
Il est pas mort tout de suite. Il s'est assis, OK? Je vous en donne.
Sous le choc.
Oui, il s'est assis, pouf, il bougeait plus. Fait que là, on a dit, OK, on va l'achever. Là, mon partner, il était, là, mon partner, il était nerveux. Fait que là, on l'a manqué, carrément. On shakait, OK? Puis là, il s'est enfui, là, il titubait, puis tout. Puis là, après ça, il y a eu... Pourquoi qu'on pense qu'il est mort? C'est parce qu'on sait où est-ce qu'on l'a tué. On l'a tué dans une zone, tu meurs pas vite. Mais ici, dans la zone des intestins, c'est une des pires places.
Oui, mais
parce
c'est sadique, la façon dont vous décrivez ça, là.
Oui, mais c'est cru, mais c'est de même. Si tu touches ici, dans la zone à droite, là, les flancs, souvent, tu meurs pas tout de suite, mais c'est une zone mortelle.
Tu meurs au bout de ton sang.
Mais tu meurs de. Vraiment, c'est très douloureux, ça veut dire. Puis sinon, tu vas avoir une infection, puis tout, c'est vraiment.
Mais
puis,
okay, Wally.
Il envoie un système un signal de détresse, okay, pour une évacuation médicale. Puis là, on sait pas s'il est mort. Moi, je pense que oui, parce que c'est une zone mortelle. En tout cas, peut-être que non. Peut-être qu'il a survécu par miracle, mais j'en doute fort.
Mais ce soir-là, quand vous vous couchez, Wally, puis vous vous dites, ce gars-là, je l'ai vu, là, j'ai lancé, vous dites, c'est une balle pour tuer un éléphant, là. T'sais, je veux bien croire, le gars, c'est un ci, puis c'est un ça, puis il a commis des exactions, peut-être, ou peut-être pas. Mais quand même, vous vous couchez le soir, vous regardez dans le miroir en disant...
Je suis capable de faire le pont. Oui. J'ai pas de cauchemar. C'est bizarrement... Je sais pas c'est quoi qui se passe, là, mais genre, j'ai pas de cauchemar, puis je chante pas votre traumatisme, je me sens pas coupable, il y a rien de ça qui...
Non, mais
pas
la notion de se sentir coupable, mais juste de se dire, c'est pas une job comme une autre, là.
Non, mais en fait, l'hiver après on jasait, puis il me disait, hey, c'était tout un parcours, puis tout, puis en tout cas, j'ai dit, ouais, mais toi, t'as tout un parcours pour d'autres mondes, tu sais, lui, il trouvait ça exceptionnel, t'es le gars qui passe à la télé à chaque soir, quasiment, et c'est pas normal non plus, tu sais, fait que tout est relatif, hein, puis je fais souvent comparaison avec...
Oui, mais Denis Lévesque, il tire pas du monde avec des balles qui sont faites pour des éléphants.
Non, ouais, c'est vrai, il y a une petite différence, là.
Une légère différence. Non, mais c'est parce que vous évitez de répondre à ma question.
Non.
Quand vous vous couchez le soir, le jour où vous avez tué...
Je dors super bien.
Super bien.
Mais en fait, mon problème, c'est que j'aime tellement ça apprendre que je vais regarder plein de vidéos puis je vais avoir de la misère à m'endormir. C'est ça mon problème. Parce que je regarde des vidéos sur un paquet de domaines. Je fais de la programmation, c'est pour ça.
Okay.
Sur la programmation, sur les réseaux, la sécurité informatique, un paquet
donc,
de choses.
Donc, pour oublier le fait que vous avez tiré sur un gars avec une balle.
Ben, peut-être que là, Freud, s'il était assis avec nous à l'autre micro ici, il pourrait dire, ah oui, c'est ça, il veut oublier tout. Mais moi, je sens que non.
Ouais.
Moi, j'ai vu bien que ça. J'ai fait un job qui était nécessaire, tu sais. C'est mon avis.
Mais comment vous expliquez que, par exemple, vous le dites, ben, vous n'avez pas de PTSD, donc post-traumatic shock syndrome, ou le syndrome de choc post-traumatique, je devrais le dire en français, que vous n'en avez pas, mais que certains de vos collègues, eux, en souffrent. Qu'est-ce qui fait qu'un Wally, il est capable de faire sa vie après, et que d'autres de vos collègues, qui étaient peut-être à quelques mètres de vous, eux, ils en font des
cauchemars? Je ne suis pas un spécialiste. J'ai souvent pensé à ça, puis j'ai même contacté des chercheurs. Je leur disais, scannez-moi donc, ça va vous voir. Puis il y en a qui était ouvert, mais il y avait une recherche qui était finie, fait que ça a tombé comme j'ai pas pu, mais peut-être un jour.
Ouais.
Mais c'est un peu comme une carte de crédit, je pense. Il y a un point de faut pas que tu dépasses. D'après moi, tout le monde a un point. Ça, c'est sûr. Certaines personnes étaient invincibles mentalement.
Donc, vous n'avez pas atteint votre limite.
Moi, je pense que c'est ça. Puis.
Puis chacun a une limite qui est différente.
Hein? Ouais. Puis d'après moi, c'est les ingénieurs, là, ils disent, on appelle ça le point de flexion. Okay. Tu sais, mettons, je mets du poids sur un pont, il va pas bouger beaucoup. Mais il va y avoir un point où tu vas juste rajouter quasiment...
C'est la goutte d'eau qui fait
une valise, on va dire, le pot d'une valise quasiment. Là, puis là, ça va tout, le pont va s'effondrer au complet. Puis peut-être que le point de flexion, il est des fois plus proche qu'on le pense. Hein? Des fois, on serait surpris. Puis moi, dans mon cas, ben, je semble ne pas l'avoir atteint. Mais peut-être que j'ai passé tout près.
Peut-être que vous n'avez pas de point de flexion.
Non, c'est sûr.
On en a tous un.
Oui. Ça serait vraiment... Justement, je pense que ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas de point de flexion, c'est ceux-là qui sont à risque.
Ouais.
L'arrogance peut mener à des surprises dans la vie puis au combat.
Ouais.
J'ai vu des gars que ça a mal viré un petit peu, là, puis ils étaient bien comme un drap, puis tout, mais c'est des bons soldats, là. C'est ça qui est surprenant souvent, c'est même pas ce que tu penses des fois.
Ouais.
Tu sais, on prendrait toute la radio ici, la gang, on va dire, là, que tout le monde, on s'en va là-bas. Là.
Oh, mais il y a une gang de crackpots ici, j'imagine. Hein? Il y a du bon puis du meilleur. Non, tout le monde est formidable.
Tu serais surpris comment, mettons que tout le monde serait d'accord, il faut y aller parce qu'il y aurait vraiment une affaire ultra grave. Tu serais surpris de voir qui devient courageux.
Ça, c'est intéressant.
Tu verrais, ça serait pas ce que tu penses nécessairement.
Mais ça, c'est intéressant parce que c'est ça que ça fait, la guerre. C'est que ça plaçait, je pense, je fais encore une fois référence à la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens ordinaires placés dans une situation extraordinaire qui font des choses extraordinaires, donc, on a des ressources à l'intérieur de soi qu'on ne soupçonne pas tant qu'elles ne sont pas sollicitées.
Moi, j'étais le plus petit de la gang. Là. Okay,
oui, vous n'êtes pas grand. Hein?
Non, c'est ça. Moi, je suis tout petit. J'avais la plus grosse des armes, par exemple. J'avais à 0.50. Elle est quasiment haute comme moi avec tout l'équipement.
Ah, ouais.
Puis mon boss disait tout le temps, tout le monde te sous-estime, t'es tout petit, puis tout, là. Puis j'ai dit, mais quand tu vois une gang là, de barbus, là, musclés, puis tu vois un petit dans la gang, méfie-toi du petit. C'est ça que je disais.
Faut toujours se méfier des gens gens qui ont, tu sais, Anguille Souroche, là, tu sais, je veux dire,
ouais, c'est ça.
faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de photos en noir et blanc dans votre livre, et à un moment donné, il y a un des soldats qui est devant une affiche de Chuck Norris. Puis je me disais, okay. Non, mais ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, bon, c'est il y a aussi toute cette imagerie-là, très macho, les grosses armes, les gros muscles.
Mais il y avait un des pelotons qui a son logo, c'était Chuck. Les Américains étaient jaloux.
Ah oui?
Chuck avec un noir et son espèce de pistolet mitrailleur. Puis d'ailleurs, on a perdu un gars mort dans cette équipe-là. J'étais dans la patrouille, je le décris, la patrouille à Chuck. Puis lui, il s'appelait Chuck, c'est son surnom. Ce qui est carrément surréel quand tu y penses.
Mais c'est intéressant, là où je voulais en venir, c'est que c'est un personnage de fiction.
Ouais.
Qui, lui, bon, tu sais, boum, 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 tac, 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 tac. Mais c'est que ce personnage-là soit un symbole ou que ce soit une idole, pour vous, qui vous le faites pour de vrai, là, c'est pas
une application. Je fais un parallèle avec le vrai Chuck Norris. Je dis, là, dans la vraie vie, les Chuck Norris, ils meurent.
Ouais.
Mais ils affrontent un danger qui est réel. T'sais. Je dis quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas les mots exacts, mais ça ressemble à ça.
Ouais.
Puis,
en tout cas, alors, donc, on va se quitter là-dessus.
Je peux-tu dire où l'acheter? Mission tireur d'élite, mission 2. tireur d'élite. Vous allez à livreswally.com, livre au pluriel, livrewally.com. Là, il y a tous les liens. Vous l'avez 9,99 en Kindle, puis 27 $ en version paperback d'Amazon, livraison incluse. Merci beaucoup.
Méchant bon vendeur.
Hein?
Pas juste un tireur d'élite, un vendeur d'élite.
Faut puncher.
Merci beaucoup, Ali. Ça a été un plaisir de vous poser des questions. Donc, le livre s'intitule Mission tireur d'élite. Après la pause, un tireur d'élite des finances personnelles, Stéphane Desjardins.
Sa dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio.
C'est à peu près la pire chose qui peut vous arriver, perdre un proche, mais en plus de la douleur, de la perte d'un être cher, il y a toutes sortes de questions, c'est plate d'en parler, mais il faut en parler, il y a toutes sortes de questions administratives, le notaire, le testament, qu'est-ce que fermer des comptes, puis tout ça. Comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Quelles sont les étapes à suivre? On va en parler avec Stéphane Desjardins, qui est chroniqueur consommation au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, j'ai toujours pensé qu'il devrait y avoir des gens qui créent une profession et que cette profession-là, c'est aider les proches de quelqu'un qui est décédé à se dépatouiller avec toutes les démarches à faire, parce que ça semble tellement énorme comme démarche à faire quand un proche décède. Est-ce que ça existe, cette job-là de aidant au décès de quelqu'un? Est-ce que ça existe?
Malheureusement, non. Mais en fait, le directeur de funérailles joue un peu ce rôle aujourd'hui, en cette période, en cette époque où l'argent joue un rôle central dans nos vies, évidemment.
Oui. Alors, faute d'avoir un directeur de funérailles ou faute d'avoir quelqu'un qui est un professionnel et peut nous aider avec l'ensemble de tout ça, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. C'est quoi la première étape qu'on doit faire quand il y a un proche qui décède?
Ben, normalement, c'est d'obtenir le certificat de décès, un peu comme une naissance. Hein, quand vous avez un enfant, c'est obligatoire. Il faut obtenir un certificat de naissance. Ben, c'est aussi obligatoire pour les proches d'avoir un certificat de décès qui est émis par le directeur d'État civil. Généralement, il y a un médecin qui constate la mort de votre proche et qui fait un constat de décès. Bien, c'est avec ce petit papier-là qu'on obtient le certificat de décès qui, à partir duquel toutes les autres démarches pourront être entamées auprès de l'État, auprès des banques, auprès du notaire, auprès de tout le monde, quoi.
Parce que on a déjà vu ça, des cas de gens qui continuaient à recevoir des papiers du gouvernement, puis que le gouvernement était comme pas au courant que la personne était décédée. Donc, il faut qu'on soit capable de...
Ça arrive de moins en moins. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore. Il y a aussi beaucoup de fraudeurs qui en profitent là pour faire ça, oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire des fraudeurs? Ils font quoi? Ils font croire que la personne...
En général, les fraudeurs sont très bons hein, pour fouiller dans nos vies.
Ouais.
Ils passent dans Facebook avec des robots, ils fouillent dans nos boîtes aux lettres, et puis quand ils finissent par apprendre que vous êtes décédé, ben ils se font passer pour vous. Ça s'est vu. Mais avec le certificat de décès, c'est un moyen de contourner la chose, oui.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un pourrait regarder dans les avis de décès puis dire, bon, ben mon voisin est décédé, donc je vais aller dans sa boîte aux lettres, aller chercher, mettons, je sais pas, ses chèques d'assurance sociale ou ses chèques de ci ou de ça. Et donc, c'est le type de fraude qu'il peut y avoir si on prend pas soin, justement, de contacter les autorités avec le certificat de décès.
Exactement. Le meilleur moyen, c'est de se retrouver chez le notaire assez rapidement. Le notaire va faire une recherche. Il y a des bases de données là où on inscrit les testaments. Là. Mm-hmm. Alors, il y en a une au barreau, puis il y en a une à l'ordre des notaires. Avec certificat de décès, il va faire cette demande-là. Ensuite, bien évidemment, il faut fouiller dans les papiers personnels de la personne décédée, notamment au bureau, au chalet, aller dans les résidences. Mais je vais rajouter quelque chose que le monde ne pense pas,
ouais.
Le nuage numérique. Souvent, ouais. On met un paquet de choses dans notre nuage, Google, Apple, etc., Microsoft, et puis il y a des papiers importants là-dedans. Dans notre bureau chez l'employeur, des fois, on fait une copie d'une clé USB avec des documents importants au chalet. Et il faut aussi avertir l'employeur, bien sûr, et le courtier d'assurance vie, parce qu'on a, souvent des protections d'assurance vie importantes de ce côté-là. Puis l'employeur, ben, si on a un régime d'assurance collectif, bien évidemment, il y a de l'assurance vie là aussi, qui paie parfois pour les funérailles.
Mais Stéphane, est-ce que le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux gens, ce serait pas de faciliter la vie des proches? C'est-à-dire que, vous le dites, quand quelqu'un décède, ceux qui restent doivent faire comme 22 démarches pour essayer de retrouver le testament ou le ci ou le ça. Est-ce que la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est pas justement de prévenir nos proches en disant, regarde, si un jour je m'en vais, enfin pas si un jour, parce qu'on va tous mourir un jour, mais le jour où je vais partir, mon testament, il est avec tel notaire, j'ai de l'assurance vie avec telle compagnie, j'ai tel compte de banque, voici les numéros. On devrait tous faire ça pour éviter justement à nos proches d'avoir à passer à temps plein pendant des mois pour essayer de retrouver tous ces documents-là.
Exactement. Vous l'avez dit, il faut tout rassembler dans un seul endroit, faire des listes. Beaucoup de gens utilisent des applications de gestion de mots de passe. C'est une bonne idée, mais il faut que la voûte principale de l'application, que vos proches aient le mot de passe pour pouvoir accéder au NIP.
Ouais.
Et aussi, une autre affaire, c'est que, ben beau, là, c'est très important de faire son testament puis de retrouver le testament du défunt, mais il y a des gens qui en profitent pour dire, pour payer, mettons, un loyer qui est passé dû ou régler des cartes de crédit et tout, faites pas ça. Ça, parce que si, par exemple, le défunt a des dettes plus élevées que la valeur des actifs, puis que vous décidez que non, moi, je refuse la succession parce que je veux pas hériter de dettes si elles excèdent les actifs, ben ça pourrait être interprété comme, ah, ben oui, il a payé ses dettes courantes, fait que ça veut dire qu'il accepte la succession. Alors, plutôt que de faire ça, évidemment, on s'en sort pas, on est pogné pour faire le tour de tous les papiers pareils, même si la personne qui était décédée a eu la gentillesse et la prévoyance de tout rassembler au même endroit, faut quand même faire la liste de toutes les soldes de comptes bancaires, y compris PayPal, hein, eBay, on a de l'argent des fois dans des banques en ligne, des choses comme
c'est
ça.
C'est tellement vrai.
La liste des œuvres d'art, des bijoux. Je vous ferai pas la liste de tout ce que j'ai écrit dans ma chronique, mais ça peut être long.
Oui, ça peut être long. Et c'est ça qui est important, c'est que, en plus, quand quelqu'un qu'on aime décède, quand un proche décède, on est déjà dans la peine par-dessus la tête. Là,
C'est tough.
C'est dur.
C'est une vraie affaire, là, c'est très dur, mais on n'a pas le choix. Vous savez, on paye de l'impôt même quand on est mort, hein? Alors, il faut faire la liste de nos valeurs. Même des fois, engager un évaluateur qui va évaluer la valeur de nos biens et de la maison et du chalet pour pouvoir déterminer combien on va payer d'impôts, combien la personne décédée va payer d'impôts. Puis là, il faut faire cette démarche-là auprès du gouvernement qui va régler les questions de succession, qui va ce qu'on appelle libérer tout ça pour qu'une fois que tout ça va être libéré, on puisse recevoir un héritage si on décide qu'on accepte la succession. Ah, c'est des grosses démarches, puis on est pogné pour les faire, malheureusement. Mmh.
Mais je veux revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure sur les gens, quand quelqu'un décède, on se dit, bon, ben là, je suis, tu sais, mettons, appelons-la ma tante Rose, OK? Ma tante Rose décède, puis là, on regarde le testament, puis ma tante Rose, elle nous a tout légué. On se dit, hey, waouh, c'est super le fun. C'est super le fun que ma tante Rose soit décédée, mais c'est bien, on va pouvoir hériter tous ces trucs. Puis là, on gratte un peu, puis on se rend compte que ma tante Rose, il y a une grosse hypothèque sur sa maison, qu'elle avait des dettes parce qu'elle est allée jouer tout son argent au casino. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte que finalement, ce qu'elle nous a légué, c'est des troubles financiers. Donc, il faut faire extrêmement attention, puis on n'insistera jamais assez là-dessus. Là. C'est extrêmement important de tenir compte du passif et de l'actif avant de prendre une décision, là?
Absolument, absolument. C'est certain que personne va vous courir après si vous partez avec la bague de mariage de ma tante Rose puis le vieux tableau que vous avez toujours détesté puis que finalement, qui était dans le salon puis que finalement vous voulez garder parce que finalement vous le détestez pas tant que ça, là.
Ouais.
Mais au-delà de ces choses-là, c'est sûr que si elle vous laisse des dettes puis que les dettes sont plus élevées que... Puis il y a aussi l'impôt à payer. Si, par exemple, elle a un chalet, puis le chalet, elle l'a acheté 5 000 $, puis il vaut 150 000 $, puis vous avez...
C'est imposable, parce que c'est une résidence secondaire.
Ben voilà. Alors,
oui.
Si le gain de capital se traduit par un impôt à payer qui va vous forcer de vendre le chalet, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses, puis vous avez raison. Puis là, on est en plein deuil, puis c'est pas trippant, là. Puis en plus, vous devez faire ce genre de choses-là. Mais je répète, c'est très important, et vous l'avez dit, c'est très important de faire la liste des actifs, des passifs, de leur valeur, et de prendre une décision.
Oui.
Décision au pire moment, d'ailleurs.
Pouvez-vous répéter l'importance de faire son testament?
Ah oui, ça. D'autant plus que si, par exemple, vous êtes en union de fait, puis vous n'avez pas fait votre testament, la personne qui est avec vous puis qui a payé une partie de votre hypothèque, ben elle perd tout au profit de soit de l'ancien conjoint, soit de d'autres personnes dans la famille.
Ben oui.
Vous savez,
c'est les parents, puis ensuite les frères et sœurs, puis ensuite, tu sais, ça peut moins drôle, ça.
Le cas le plus célèbre, c'est la femme de Stieg Larsson qui a écrit la série de
romans
Millennium. Ils n'avaient pas de testament. Et elle a tout perdu, une fortune de 100 millions à cause de ça.
Ben, elle a tout perdu, c'est ça. Ben, ça, c'est je suis tellement contente que vous parliez de ça, parce que c'est un truc qui, moi, m'avait vraiment frappé à l'époque, c'est que Stieg Larsson, non, n'avait pas fait de testament, et en fait, il n'était pas marié avec la femme qui partageait sa vie. Donc, à son décès, tous ses droits d'auteur des millions de dollars sont allés au père de Stieg Larsson et à son frère. Et sa conjointe a contesté ça devant les tribunaux, puis elle s'est fait répondre, ben, c'est parce que si ton chum avait voulu te protéger financièrement, il y avait deux choses à faire. Soit il te mariait, soit il mettait son testament, il l'a pas fait. Just too bad, là. Mais ouais. C'est là qu'on voit l'importance de notarier, de préciser, de documenter, puis tout ça. Parce qu'on peut pas se fier juste sur « Ah, ben, il m'aimait beaucoup. J'aurais aimé ça avoir son argent. » Ouais, mais si tu l'as pas mis par écrit, t'es pas protégé.
Et ça se corse si vous avez des enfants. Ça se corse si vous avez des actifs, si vous avez un fonds de retraite, un régime de retraite d'employeur.
Oui.
Tout ça peut s'en aller ailleurs que dans vos poches. C'est très, très délicat. Puis là, votre conjoint, il vient de mourir, vous êtes en plein deuil, puis en plus, ça, là, ça vient vous frapper
une claque
encore plus fort.
Ouais.
Donc, encore une fois, oui, vous avez raison. Faites un testament.
Et on va terminer là-dessus. C'est pas pour rien que le testament s'appelle les dernières volontés. Les dernières volontés, le mot volonté est le mot important. C'est ce que cette personne-là veut. Alors, on peut pas après dire, ouais, mais pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a pas fait ça? Ben, c'est ses volontés. Je fais évidemment référence, entre autres, à Johnny Hallyday, là. S'il avait voulu laisser de l'argent à sa fille et son fils en France, il l'aurait fait. Ben, il l'a laissé tout à Laetitia puis ses deux filles. Mais là, je fais de l'éditorial sur Johnny Hallyday. On s'en va dans un autre sujet. Merci beaucoup, Stéphane. Ça a été un plaisir de vous parler.
Avec plaisir, moi aussi. Bonne journée.
À la prochaine. Donc, vous lirez ça dans le journal, cette chronique de Stéphane Desjardins. Quoi faire quand un proche décède? Après la pause, bon, on va peut-être se chicaner avec Jean Héroldi. Peut-être. Je sais pas. On va voir.
Tout le monde a droit à son opinion. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
Sophie Durocher.
On n'est pas obligé d'être d'accord.
Il est entré dans le studio de Cube Radio avec un t-shirt ou enfin un gaminet sur lequel est écrit « What is fashion? » C'est quoi la mode? Bonjour,
question, hein?
Jean Héroldi.
Ça va bien?
Designer, styliste et chroniqueur mode. T'es à peine rentré en studio que déjà on se met à parler de Céline. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Ah oui!
T-shirt, futur, les futurs de Céline, les prochains shows dans l'avenir, donc sur Pluton, Mars.
C'est très drôle.
Sur
alors, sur le site Céline. Nu. Et j'arrive même pas à me mettre
dans la bouche. On sait pas combien il y a de nu.
On sait pas combien il y a de nu. Puis c'est tellement, tu sais, c'est comme ça marche en anglais, mais en français, tu vois nu, puis ça te donne nu. C'est sûr que tu penses à ça.
Ouais.
Alors, sur le site de Céline nu, donc la collaboration de Céline avec la marque israélienne, donc des vêtements pour enfants non genrés, il y a un t-shirt pour les futurs spectacles de Céline. Donc,
les futurs fans.
Pluton, ça va être en janvier 2025, en mars 2025. Il y a comme un jeu de mots là-dedans.
C'est quand même rapide. Hein?
C'est quand même rapide. Écoute, on voulait que tu viennes ce midi nous parler, Jean, parce que j'ai écrit une chronique dans le Journal de Montréal qui s'intitule « Peut-on parler de guenilles? » Parce que moi, je suis confuse. Là, je sais plus, je suis toute mélangée. On nous répète tout le temps qu'il faut pas parler du linge des femmes, faut pas parler de la façon dont elles sont habillées, parce que c'est réduire les femmes juste à leurs vêtements. Il y a une politicienne, faut pas parler des foulards de Pauline Marois. Safia Nolin, faut pas parler de sa chemise quand elle est allée au gala de la disque. Puis à côté de ça, il y a Diane Dufresne qui est en spectacle.
Ouais.
C'est, il y a des paragraphes et des paragraphes sur le fait qu'elle est habillée par Marie Saint-Pierre.
Ouais.
Puis Bianca Andreescu qui gagne donc US Open. Il y a des pages et des pages sur le fait qu'elle est habillée par Marie Saint-Pierre.
C'est une bonne nouvelle en plus.
Bon, ben c'est quoi? On a-tu le droit? On n'a pas le droit de parler du linge?
C'est drôle parce qu'il y a des gens bon, qui vont crier. Il y a des vedettes aussi qui disent maintenant sur les tapis rouges, demande-moi pas par qui je suis habillé.
Oui.
Pose-moi des questions sur ce que je fais dans la vie. Pourtant, souvent, les mêmes vedettes, alors qu'elles étaient inconnues, se sont faites connaître par la manière qu'ils s'habillaient.
Oui, comme on pense à Elizabeth Hurley qui s'était fait connaître avec sa robe avec des épingles quand elle était avec Hugh Grant.
Ben oui, puis c'était très important, c'était Versace dans ce temps-là. Et pour plusieurs vedettes, souvent, il y a des gens qui sont sortis du tas, qui n'avaient pas plus de talent que l'autre, mais par l'apparence, est importante. On peut reculer là, dans le temps, sur les îles désertes et tout ça, là, ils ont des rituels de beauté, de vêtements, de couleurs. C'est pas d'hier. Et moi, je me dis toujours, c'est comme la section de hockey à la fin du Journal de Montréal. Si elle t'intéresse pas. Lis-la pas. Mais tu sais, pour d'autres gens, c'est important puis ça les intéresse et pourquoi pas?
Oui, mais dans ce cas-là, par exemple, je pense Bianca Andreescu, la première conférence de presse qu'elle donne, écoute, elle a le trophée à côté d'elle puis tout ça, elle a une magnifique robe avec les épaules dénudées puis en plus, on voit ses belles jambes musclées.
Ouais.
C'est correct de dire, hey, c'est quoi la robe qu'elle porte? Hey, c'est une designer québécoise. Donc, dans ce cas-là, c'est correct de parler de ses vêtements.
Oui.
Mais ça veut pas dire qu'on y parle pas de ses performances sportives.
Ça a aucun rapport.
Également.
C'est sûr que dans le cas d'une autre joueuse de tennis, quand on parlait plus de son look que ses performances, ça peut-être que ça peut devenir bizarre.
Oui, c'est parce qu'elle avait pas grand linge sur le dos.
C'est ça.
Tu parles de génie.
Oui, puis elle gagnait pas beaucoup de games non plus.
Mais par exemple, je regarde, OK, on parle de tennis. Serena Williams, à un moment donné, est arrivée sur les courts avec un espèce de costume. Il y avait comme un legging, puis un espèce de truc très ajusté, puis tout ça. Puis là, plein de gens commentaient son costume, puis elle disait, arrêtez de me parler de comment je suis habillée, parlez-moi de ma performance sportive. Mais on a aussi le droit de parler de ça.
Parce qu'à un moment donné, tu cours après aussi parce que tu veux être différent. À partir du moment où tu es différent, dans le cas de Williams, c'était la même chose. Elle s'habillait toujours des costumes qui étaient différents des autres joueuses. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, on va en parler parce que déjà, le tennis, c'était assez... petite jupe blanche au départ.
Mais oui.
Ça a changé beaucoup dans les années. Et tant mieux, elle a fait changer les choses. Donc, pourquoi on n'en parlerait pas?
En fait, ce que toi et moi, on critique et qui nous énerve, c'est l'espèce de double discours. Tu sais, je vais m'habiller d'une façon qui va être remarquable, mais il ne faut pas que vous le remarquiez. Ben là, décide chose, là.
Tu moi, c'est quoi? J'ai déjà fait une entrevue de radio à Radio-Canada à l'époque de mon show, Quel âge me donnez-vous?
Oh,
et
mon
Dieu. Avec une gang de féministes qui étaient contre mon show, puis que c'était épouvantable. Personne n'avait vu le show, mais tout le monde était contre. À un moment donné, j'ai posé la question à une femme de quarantaine. J'ai dit, vous, madame, vous avez des lunettes Gucci, vous avez un collier dernière mode, puis vous avez une teinture dans vos cheveux. Ça veut dire quoi?
Je pense que shit qui tu parles.
Elle me dit, moi, M. Héroldi, là, dit, j'ai les cheveux blancs depuis l'âge de 25 ans. J'ai dit, oui, mais c'est ça, justement. Il est où le problème? Tu sais, à un moment donné, il y a un côté féministe, mais pas avoué tant que ça. C'est comme, c'est mélangé ou c'est quand ça fait leur affaire.
Oui, mais ça, j'aime bien. Ça, c'est ce que j'appelle un féminisme à géométrie variable.
Mmh.
C'est-à-dire que, premièrement, ça dépend quelle gang. Tu sais, quand Eugénie Bouchard, elle se met tout nue, ah, c'est effrayant, elle se met tout nue, puis c'est l'objectification, puis l'hypersexualisation, puis la chosification.
Ouais.
Ça, c'est une nouvelle affaire, là, la chosification de la femme. Mais quand une chanteuse connue en surpoids, se met tout nu, les mêmes personnes là, qui critiquaient Eugénie Bouchard sont là puis applaudissent, puis c'est donc formidable.
Ouais.
OK, ben là, c'est comme une femme se met tout nu, c'est pas correct parce qu'elle se sert de son corps. L'autre se sert de son corps aussi, mais tu l'applaudis.
C'est ça, ça marche pas.
Ouais.
Tu sais, ça marche pas parce que, oui, on va se dire, bon, peut-être que celle qui est en surpoids a peut-être plus de courage de le faire. Peut-être que oui. Mais c'est à la limite, on dit que d'avoir du surpoids, c'est beau, c'est normal, puis c'est beau pour tout le monde, mais ça devrait être le même défi pour une que pour l'autre. Tu sais, ça aussi, des fois, c'est mélangeant.
Oui, en fait, je pense qu'on est mélangé dans notre
mélangeage. En fait, on prend ce qu'on veut quand on veut.
Oui. Toi, tu as fait référence donc à l'émission où les femmes étaient mises dans un cube.
Ouais.
T'as vu, j'ai fait attention, j'ai pas dit une cage.
T'as pas dit une cage.
J'ai dit un cube. Ouais. Un cube. Tu l'apprécies quand
même. Oui, quand même.
Donc, les femmes étaient mises dans un cube en plexiglas. On leur demandait dans un centre d'achat, les gens disaient quel âge vous me donnez, tout ça. Toi, tu les aidais à se transformer, à se métamorphoser et on refaisait le même exercice et on demandait quel âge vous avez. Et systématiquement, les gens paraissaient, les femmes et les hommes, paraissaient plus jeunes.
Puis tu sais quoi, on ne l'a jamais vu à la télé, mais il y a des gens qui sont juste repartis chez elles parce qu'on a fait le test avec des gens, puis on a demandé quel âge que tu lui donnes. La fille avait 49 ans et c'est sorti qu'elle avait 49, 48, 47 par les gens. Donc une moyenne de 48, elle paraissait plus jeune que son âge finalement. On a dit une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu t'en retournes chez vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne s'occupera pas de toi pour ton look.
Ben non.
Parce que c'était pas notre but, c'était de ramener une femme à son âge véritable et c'était pour moi le juge là-dedans. Il y a des gens qui me croisent, qui me disent quel âge que tu me donnes. Hey, je sais tu moi quel âge que tu as. Je ne répondrai point à cette question.
Jean Héroldi, il s'en tape pas mal de savoir quel âge vous avez.
Non, mais à un moment donné, je fais comme je répondrai seulement qu'en présence de mes avocats.
Ben oui, mais tu fais bien. Tu fais bien. Hey, le nombre de fois où on l'a dit, celle-là. Mais la raison pour laquelle je reviens sur cette émission-là, c'est qu'à cette époque-là, les gens disaient « Ah, ben là, c'est pas bien, les femmes, il faut pas les juger sur leur apparence. » Mais on est constamment en train de s'évaluer les uns les autres. Tu sais, t'es arrivé, là, j'ai remarqué la façon dont t'étais habillée. J'ai dit, hey, waouh, il y a comme un tuxedo avec le petit revers. La façon dont on s'habille, on dit quelque chose. Ouais, parce que moi, tu vois, je me suis mis une belle petite blouse, mais j'ai fait une petite tache. Là, je me disais, j'espère que Jean-Héroldi ne la verra pas, fait que je mets ma veste en cuir.
Mais le problème, c'est ça.
Ma veste en cuir, je l'ai déchirée, mais je l'ai raccommodée. Ça se voit-tu?
C'est tellement drôle, parce que c'est toujours ça qui arrive. Les gens qui me rencontrent, ils me le disent eux autres même, c'est quoi leur contravention
qu'ils
pourraient avoir. Fait que je trouve ça bien drôle.
Non, mais me donnerais-tu une contravention? Regarde,
pas du tout,
je l'ai déchirée.
Non, surtout pas aujourd'hui.
J'ai cousu moi-même.
Mais avec l'air écologique et tout ça, faut garder nos vêtements le plus longtemps possible.
Tu sais que mon grand-père était tailleur.
En plus, lui, peut-être que lui, ça passerait pas. Mais moi, ça passe très bien.
Ça passe très bien. Les femmes, entre elles, s'intéressent à la façon dont elles sont habillées.
Mm-hmm.
L'exemple que je donnais dans mon texte ce matin, c'est notre premier ministre à Ottawa, Justin Trudeau, s'en va rencontrer le gouverneur général pour déclencher les élections, dissolution du gouvernement, de la Chambre et tout ça. Et il est accompagné de Sophie Grégoire. De quoi les femmes parlent? Hey, es-tu belle la robe de Sophie?
Mm-hmm.
Puis après ça, on dit, ah, il faut que les femmes...
Ça avait été laide, le monde a arrêté les premières. Es-tu laide la robe à Sophie?
Bon!
Mais les gens sont bitch entre eux autres. Et c'est ça le problème. Le moment là où les gens ne seront plus bitch entre eux, les magazines vont changer. La vision de la mode va changer. Parce que oui, on a beau de plus en plus mettre des mannequins qui sont de taille plus différente dans les magazines, mais la fille qui a un petit bourrelet, des fois, c'est la première qui va bitcher sur la fille qui a le même bourrelet dans le magazine.
Hmm.
Parce qu'on ne se voit pas comme on est fait. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui vend. Tu sais, je le sais, moi, je le dis tout le temps comme exemple, la boîte de bobettes de Calvin Klein, le gars, il a des abdos dessus. J'achète mes culottes, mais je pense que je vais avoir une shape de même. Si le gars avait une bédaine comme la mienne, ça a boîte. Probablement, je prendrais la boîte d'à côté.
Certainement.
On est fait comme ça. Mais à partir du moment où les gens vont accepter leurs défauts, leur rondeur, ça va changer.
Ouais, mais c'est pas juste les gens de l'industrie qui vont le faire. Attention, Jean-Hérodie, tu viens de mettre défaut puis rondeur dans la même phrase, tu vas te faire hit. Hey, tu vis dangereusement, toi.
Non.
Tu vis dangereusement.
J'ai fait une collection de taille 14-24.
Attention, comment
et
tu
je l'appelle toujours comme ça. J'ai pas voulu l'appeler taille plus. J'ai pas voulu l'appeler parce qu'il y a trop de mots comme tu sais, additionnel, ça fait, tu sais, t'en mets encore plus. Il faut faire attention à ces termes-là. Moi, j'ai appelé ça collection 14-24 pour justement que les femmes se sentent belles avec leur rondeur. Et savez-vous quoi? Souvent, j'ai moins de problèmes. Pas souvent. J'ai toujours moins de problèmes avec des femmes qui habillent du 12, du 14, du 16 à travailler, les magasiner avec elles, que ceux qui habillent du 0, du 2, qui cherchent je sais pas quelle perfection, mais qui ne se trouvent jamais parfaites. Contrairement à ceux qui sont un petit peu plus enrobés, ils sont fiers, ils se trouvent belles, ils sont contents qu'on les avantage. Et ça, ça devrait être le regard que les gens ont entre eux autres aussi.
Mais est-ce qu'on peut... Donc, lançons un appel à un petit peu plus de bienveillance. Mm-hmm. Parce que tu vois, j'ai commencé l'émission, puis je l'ai encore devant moi, le magazine, en parlant de la semaine dernière, Nathalie Simard qui faisait la une du magazine La Semaine, en disant, écoute, elle a perdu 55 livres, elle a mieux mangé, elle a fait du sport, puis elle a une chirurgie bariatrique.
Oui, puis elle a rendu... Je suis en train de faire ses costumes pour son spectacle.
Es-tu sérieux? Ouais, ah, je savais pas!
Elle est rendue vraiment à petite, là. Ça s'en vient
mais
très,
peux-tu
très
croire qu'il y a un site qui dénonce la grossophobie, qui traite Nathalie de grossophobe.
Mais peu importe ce que tu fais dans la vie, tu te feras toujours critiquer d'un bord ou de l'autre.
On va la traiter. C'est quoi? T'es phobe de quoi, toi?
Moi, de rien. Moi, j'aime. Je pense que c'est une question d'équilibre. Je pense pas. En tout cas, je pense, là, mais. Non, je pense pas, non.
Non, mais on va te trouver une phobie.
Peut-être,
oui. Oh, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui va dire, hey, mon Dieu, Jean-Hérodie, il est tellement chosophobe. T'es chosophobe.
Ouais, ça doit, mais non, mais je pense pas.
T'en fais pas, ils vont trouver quelque chose, Jean. C'est toujours un plaisir de te parler.
Plaisir est pour moi.
Merci beaucoup. Puis la prochaine fois, tu viendras nous parler d'humour. Tu nous avais dit ça à Devine qui vient souper, que tu voulais faire un show d'humour.
Ça vient tranquillement.
Tu reviendras. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis on se retrouve lundi.
Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.